VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Ouganda, environ 30 personnes, des membres d'une petite équipe locale de football et des supporters, ont péri dimanche dans le naufrage de leur bateau sur le lac Albert, frontalier de la RDC dans l'ouest du pays. C'est ce qu'annonce lundi la police ougandaise. Selon le commandant de la police locale, John Rutagira, l'eau était calme, mais le drame s'est produit quand, en faisant la fête, l'équipe et ses supporters se sont regroupés du même côté du bateau, ce qui l'a fait basculer. Le bâtiment a alors chaviré et environ 30 personnes sont mortes noyées, a déclaré le commissaire Rutagira. En RDC voisine, des dizaines de civils tués ce week-end par des milices dans l'est du pays où les violences interethniques paraissent s'intensifier sur fond d'instabilité politique. Une milice de l'ethnie Nandé a tué au moins 13 civils Hutu dimanche à Nyanzale, 3 jours après la mort de 17 civils Nandé lors d'un raid d'une milice Hutu dans un village voisin. 3 miliciens ont été abattus à Nyanzale par l'armée congolaise qui est intervenue pour séparer les belligérants. Par ailleurs, à 300 km au nord de Nyanzale, au moins 22 personnes ont été tuées à Beni entre samedi et dimanche pendant des attaques attribuées à des présumés rebelles ougandais des ADF, selon l'administrateur du territoire de Beni, Amissi Kalonda. L'armée congolaise a tué 4 assaillants. Au micro de Gabi Dorcy, les explications du journaliste Nikes Kibel-Beloka à Beni.
Ils profitent des festivités pour attaquer, pour tuer. Donc, ils ont attaqué. Samedi, c'était 9 morts. Devant le dimanche, 20 morts. Parce que, comme c'est la forêt, on ramasse, peut-être demain encore, on va ramasser d'autres, mais disons 20 morts.
Mais les FARDC opèrent quand même dans la zone.
Donc, la zone est bien militarisée. Il y a les troupes FARDC du général et de brigade Marcel Bangou. Les FARDC sont sur place, ils poursuivent l'ennemi.
Ceci dit, comment est la situation sécuritaire en général à Beni?
On a observé un calme relatif. Pendant presque un mois, il n'y a pas eu de massacre. Maintenant, ils reprennent sûrement parce que nous sommes pendant les fêtes. Bon, on ne le souhaite pas, mais je pense qu'ils continueront. Même au 31, au 1er janvier, ils continueront parce qu'ils doivent aussi survivre. Ils sont à la recherche de vivre parce que les militaires sont au fond.
Nikes Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni en RDC. Cameroun, kamikaze a tué 2 civils en se faisant exploser dimanche à Mora dans l'extrême nord du pays, zone d'opération du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Et on reste au Cameroun pour le bilan de l'année qui vient de s'écouler. L'année 2016 aura été pleine de rebondissements et marquée par une succession d'événements négatifs. De Yaoundé, le compte-rendu de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Les films de la période sombre commencent en mars lorsque les images d'une femme éventrée gisant dans un bain de sang à l'entrée de la maternité de l'hôpital La Quintine de Douala font le tour des réseaux sociaux. En effet, Monique Koumaté, qu'elle serait décédée avant de pouvoir donner naissance à ses jumeaux et sa sœur, croyant sauver le bébé, a procédé à une chirurgie dans des conditions précaires. C'est face à ces images sur Facebook et autres que plusieurs Camerounais ont exprimé leur indignation, accusant ainsi le personnel médical du dit hôpital de négligence. Des mois ont passé et on se serait cru à l'abri des événements tristes. Seulement le 21 octobre dernier, le Cameroun vivra un des événements les plus tragiques de son histoire, à savoir le déraillement du train de la société Cambrai près de la gare de Seka dans la région du centre. Le train en partance de la capitale Yaoundé pour la cité économique Douala avait fait 80 morts et plus de 600 blessés. Cependant, le chef de l'État, Paul Biya, avait mis sur pied une commission d'enquête que devait présider le premier ministre. Seulement, les résultats devant déterminer la cause de l'accident n'ont pas encore été rendus publics, ce qui rend perplexe l'opinion publique. Quelques semaines après, c'est autour de la région de l'Est de vivre un drame plutôt inhabituel. Il s'agit du décès d'une 30aine de personnes après avoir consommé l'odontol, une boisson alcoolisée fabriquée localement. L'année rétrospective au Cameroun s'achève avec des vagues de grèves tenues dans les parties anglophones du pays. En effet, les avocats et enseignants d'expression anglaise sont descendus dans la rue pour protester contre l'influence prononcée du français dans les zones anglophones du pays. Par ailleurs, l'on peut évoquer un aspect positif dans la succession des événements au cours de cette année. Les attaques perpétrées par les groupes terroristes Boko Haram deviennent de moins en moins régulières, ce qui a entraîné la réouverture des frontières entre le Cameroun et le Nigeria après 3 ans de fermeture. Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique, Yaoundé.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, Mali, la France a promis de tout faire de concert avec les autorités maliennes pour retrouver et libérer Sophie Petronin, une Française enlevée samedi à Gao dans le nord malien. Médecin nutritionniste, Sophie Petronin s'est spécialisée dans l'assistance aux enfants mal nourris au sein de l'association Aide à Gao. Notre correspondant sur place, Boubacar Touré, revient sur l'enlèvement.
C'est devant la porte du centre d'accueil des enfants qu'elle a ouvert au quartier Sosokoira en plein cœur de la ville que le chef de mission au Mali de l'ONG AAG, Association d'aide à Gao, Sophie Petronin, a été enlevée le samedi 24 décembre 2016 vers 17h par des hommes armés à bord d'une Land Cruiser. Aliou Boussou, témoin, nous raconte.
Ils sont venus rapidement et ils l'ont enlevé.
Ils étaient combien ?
Ils étaient 3. Ils sont de Tamachek, de couleur blanc. Ils ont pris juste le carré que vous voyez et ils ont monté en haut sur la route de Kidal.
L'enlèvement du docteur Sophie a été un coup dur pour les enfants du centre qui ne réclament que le retour de leur maman. Zainabou Walet Mohamed, pensionnaire du centre.
Comme ma mère, parce qu'elle nous aide de la rendre parce qu'on a besoin d'elle. C'est tout ce qu'on cherche.
Intervenant dans le domaine de l'humanitaire depuis plusieurs années à Gao, Sophie Petronin apporte assistance en nutrition à plusieurs enfants orphelins dont des nourrissons. Les populations de Gao très tristes invitent les autorités maliennes à agir vite pour retrouver la mère des orphelins.
Vraiment, ça me fait mal au cœur. Ça fait mal à toute la population de Gao.
Pour l'instant, cet enlèvement n'a pas été revendiqué. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Afrique du Nord, en Tunisie, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a appelé à l'examen en urgence par le Parlement d'un projet de loi pénalisant le racisme au lendemain d'une manifestation d'étudiants africains dénonçant des cas d'agression. Les détails avec Nathalie Barge.
Il faut une stratégie nationale afin de changer les mentalités. Une loi qui criminalise la discrimination, a déclaré M. Chahed dans un discours à l'occasion d'une journée nationale contre la discrimination raciale. Rappelant que la discrimination raciale constitue une atteinte aux droits humains, il a indiqué vouloir faire du 26 décembre un rendez-vous annuel. Cette prise de position intervient au lendemain d'une manifestation à Tunis à l'appel d'associations d'étudiants africains pour dénoncer de multiples cas d'agression dont celle subie samedi par 3 Congolais. 2 ont eu la gorge tranchée, le troisième a été poignardé, a dénoncé Rachid Ahmad Souleyman, président de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. L'agresseur doit être présenté ce lundi à la justice, a indiqué son père sur Radio Mosaïque FM, affirmant que son fils souffrait de troubles psychologiques. Les autorités parlent pour l'heure d'un acte criminel, sans écarter toutefois un mobile raciste.
Proche-Orient, le gouvernement israélien continue de faire des remontrances suite au vote du Conseil de sécurité vendredi sur la colonisation en territoire palestinien. Michel Joseph.
Parmi les diplomates convoqués par le gouvernement israélien pour expliquer le vote de leur pays, figure le représentant de l'administration Obama. Pour la première fois depuis plus de 3 décennies, les États-Unis n'ont pas usé de leur vote de veto au Conseil pour bloquer le vote de la résolution proposé par la délégation égyptienne. Ce texte exhorte Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est, et affirme que les colonies n'ont pas de valeur juridique. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré hier soir l'ambassadeur Daniel Shapiro, 2 jours après l'adoption à l'ONU, grâce à l'abstention américaine de cette résolution défavorable à Israël. De son côté, le Sénégal a vivement réagi contre la décision d'Israël de rappeler son ambassadeur à Dakar et d'annuler son programme d'aide. Le porte-parole du gouvernement sénégalais, Sédou Gueye, a déclaré que la position de Dakar mérite d'être saluée. Et de fait, la communauté internationale salue la position du Sénégal, notamment les pays musulmans, a affirmé M. Gueye sur la télévision publique.